les studios de Radio Galaxy, vous retrouvez Christian Cayol pour son émission La Beaujotte. Bonjour l'ami Christian.
Et bonjour l'ami Francis, bonjour à tous.
C'est la dernière vidéo, après on fera du neuf avec du vieux comme tu nous dis. Peux-tu développer sur ce nouveau projet en fait? Pourquoi du neuf avec du vieux?
J'ai décidé de changer d'activité et donc je vais garder l'émission La Beaujotte, je continue. Mais je ne vais plus faire de nouvelles vidéos, ce qui fait que je vais utiliser des vidéos déjà faites, publiées, mais sur lesquelles on n'a pas fait d'émission de radio.
Voilà, donc ça c'est très important. Donc tu es en train de tout remonter et tu vas nous faire donc, c'est pour ça que tu dis du neuf avec du vieux.
Exactement, c'est exactement ça, oui, oui. Mais sur des émissions que vous n'avez pas idée, d'autres secteurs toujours en France.
Voilà, des secteurs que l'on n'a pas vus, que toi tu vas visiter et que tu as envie de nous faire partager.
Et que je revisite, prépare les émissions, je revisite avant vous.
Ah mais c'est super. Bon, mais merci pour cette générosité. Et en attendant, donc on va jouer avec la dernière vidéo, Abus d'obus. C'est un titre dur ça.
Oui, c'est
mais
glacial.
Bien trouvé.
Oui.
Hein. Surtout et quand on voit la vidéo.
Quand on va se balader du côté de Verdun et qu'on fait tous ces sites de bataille, ça donne cette impression que j'ai voulu transcrire, surtout qu'on était au centenaire. Mmh. Et j'ai fait les images à l'époque du centenaire de l'armistice. Le titre m'a bien plu, ah. Abus d'obus.
Et j'avoue que la musique que tu y mets aussi, tu en rajoutes une couche supplémentaire par
c'est
rapport
vrai.
Aux images que l'on voit donc, dans ta vidéo, qu'on peut rappeler d'ailleurs.
La vidéo Abus d'obus sur mon site Rando VTT Vidéo, voilà. Ou alors en lien aussi sur le site Radio Galaxy 31.
Voilà. Bon, allez, c'est parti, on t'écoute.
Alors, c'est le troisième volet d'une trilogie que j'ai consacrée à la guerre 14-18, après avoir été au kilomètre zéro au lieu des Vosges, et puis aussi au chemin des Dames dans l'Aisne. Donc maintenant, c'est la région de Verdun, l'Argonne, les Éparges, Vaucois, que des lieux de mémoire. Des lieux de mémoire donc qui sont innombrables, de la Première Guerre mondiale, avec des chiffres hallucinants, des témoignages inimaginables, des écrits bouleversants, le summum de l'horreur. 100 ans sont passés, mais personne n'oublie, moment d'émotion. Voilà. Faut dire aussi que, chemin faisant, c'est la deuxième partie de ma vidéo, chemin faisant, vous allez être étonné, parce que je vais commencer par ça, étonné comme je l'ai été moi-même, par la Lorraine, qui possède d'autres visages, et je vous propose de découvrir quelques petites pépites, plus confidentielles, mais tout aussi précieuses. Voilà pourquoi ce titre, chemin faisant, eh bien parce que, en montant à Verdun, en faisant des détours, on s'arrête sur ce que je vais vous présenter maintenant.
Et tu as réussi à nous dégoter une maison originale aussi.
On va commencer par ça, effectivement. Tu le sais.
Le petit Paris.
Voilà, le petit Paris. Oui, oui, après avoir vu la maison de celle qui peint, la maison aux couleurs du temps, la maison aux arrosoirs, la maison aux coquillages, il ne manque pas, la maison de la vaisselle cassée, la maison Picassiette à Chartres, enfin, voilà, de nombreuses maisons en France, celle-ci maintenant c'est le petit Paris. Avant de parler de ça, on est à Saint-Dizier, hein. Autrefois dans un vieux quartier, l'accès aux jardins et aux vignes se faisait par des voies à haute pour descendre aux vignes, qui étaient pavées, et c'est devenu les voyottes, ça s'appelle les voyottes, ça vient de voies hautes, d'anciennes maisons à pans de bois et torchis, bord de ces rues. Alors, on retrouve ça, hein, on retrouve ces voies étroites, on les retrouve, ça ne vaut pas le détour, il hein, faut bien le reconnaître, sauf que, à un angle, une maison bien particulière, qui était autrefois un commerce de bonneterie. Alors, des motifs de faïence de couleurs vives, un art brut ou naïf, hein, une maison décorée par Marcel Dièvre, exceptionnelle œuvre d'art à ciel ouvert, qui défie les règles de l'urbanisme, bien sûr, parce que pour avoir un permis, là, t'es tranquille. Entièrement restaurée, elle est vraiment nickel, elle ne se visite pas, paraît-il que l'intérieur est comme l'extérieur. Mais bon, déjà, l'extérieur, elle fait partie des maisons extraordinaires. Et elle est sur le podium, hein, conforme à la réputation que j'en avais eue. Voilà, un plaisir
d'accord.
de regarder les images. Ouais. Hein, vous voyez les femmes de la fontaine avec le corbeau, le renard, hein, sur l'extérieur avec la faïence.
Ouais, elle est très belle.
Pleine de
belle,
motifs.
Ouais. Ouais, ouais. Très chargée, très belle. Ouais.
Dans un tout autre sujet, que vous verrez sur ma vidéo si vous la regardez, je vous le conseille, le camp d'Idatila, c'est un ancien oppidum gaulois, d'une trentaine d'hectares, une enceinte celtique entourée d'un talus de terre et d'un fossé défensif qui date de l'an 80 avant Jésus-Christ, qui est devenu par la suite le territoire des Catalones. C'est un peuple qui est venu de Belgique, qui ensuite a été utilisé par les Huns, commandé par Attila, comme camp retranché. Selon la légende, ou non pas la légende, c'est vrai, la bataille des champs cataloniques, elle a bien existé, en 451, elle a mis en présence les Romains, les Gallo-Romains commandés par Aetius, ensuite avec l'aide aussi des Visigoths, commandé par le roi Théodoric, on n'en est pas loin, à la montagne d'Alaric, c'est pas bien loin de chez nous.
Oui, exact.
C'était le fief du roi Théodoric. Et le roi Théodoric qui perdit la vie à cette bataille des champs cataloniques. Hein. Et donc en 451, contre Attila, à la tête d'une coalition de Huns, minoritaire, mais aussi avec toutes les populations germaniques qu'il avait soumises, soit plusieurs milliers d'hommes. Les récits parlent de plus de 150 000 morts dans les deux camps. Cette bataille, elle mit fin à l'avancée des Huns en Gaule. Attila se lancera ensuite à la campagne contre l'Italie en allant frapper directement au cœur de l'Empire romain. Donc ce camp d'Attila, j'ai fait des images circulaires, vraiment. J'ai fait monter le drone et personne.
Ça
se voit très bien. Tout autre, la route Ligier-Richier, qui va nous plonger dans l'art religieux médiéval et aussi Renaissance. Alors, Ligier-Richier, c'est un sculpteur romain de la Renaissance qui sera souvent comparé à Michel-Ange. Il va réaliser d'innombrables œuvres inestimables qui sont exposées dans différents lieux. Par exemple, à Hattonchâtel, le retable de l'église, un trésor en pierre polychrome qui date de 1523, qui représente les scènes de la Passion du Christ, et qui mesure 2,60 m par 1,60 m, difficile de ne pas rester en admiration un certain temps devant un tel chef-d'œuvre. Dans la même église, un autre retable qui n'est pas de lui, mais qui est placé sur la table de l'autel du cœur et sculpté dans du calcaire blanc, autrefois polychrome, qui date du XIIIe siècle. Non loin de là, très près, l'église de Saint-Mihiel. Et là, vous avez la mise au tombeau. C'est une œuvre extraordinaire, du XVIe siècle, en calcaire de Meuse. Elle représente 13 personnages. Elle a été cachée sous du foin à la Révolution, pour ne pas se faire démolir, et elle a échappé à deux guerres, guerre de 14 et guerre de 40, protégée sous des sacs de terre. Alors là, il faut vraiment le voir. On reste bouche bée devant cette œuvre. Toujours non loin de là, l'église de Cilleni, qu'on appelle la Sixtine de Lorraine. Des peintures murales du XVIe siècle, faites à la détrempe. Alors la détrempe, c'est un mode de peindre les fresques qui n'est pas simple. La technique, c'est une peinture qui utilisait de l'eau pour dissoudre les couleurs. Les pigments finement broyés sont agglutinés, puis pour assurer la cohésion et l'adhérence, il faut ajouter de l'amidon, de la gomme, de la colle ou du jaune d'œuf. C'est la principale technique avant l'apparition de la peinture à l'huile. Donc, on est là devant des peintures faites à la détrempe. La mode passe à la fin du 18e siècle. On passe un padigeon par-dessus, un enduit qui va les protéger. Et heureusement, elles seront retrouvées à la fin du 19e. Alors, il a fallu une période de restauration, puis un bombardement en 44 abîme tout. Donc finalement, elles ne sont à l'exposition que depuis peu, depuis 2004. Et à l'intérieur de cette petite église fortifiée, ce sont des fresques anonymes. Elles recouvrent la plus grande partie des murs de la chapelle, qu'on appelle donc la chapelle Sixtine. Vraiment, ça, il faut y aller. La chapelle de Cilleni, elle est extraordinaire pour les fresques.
Mais on en voit d'ailleurs sur ta vidéo, on est d'accord,
bien sûr.
C'est ça.
Oui, bien sûr, on les voit, oui. Il y a assez de lumière, c'est pas comme dans... Comme dans la précédente émission, je vous avais parlé de la chapelle des Fontaines, où là, il fallait y aller par temps de soleil pour qu'à travers les vitraux, par les portes et les fenêtres, il y ait un peu de lumière pour faire des photos, parce que sinon, il n'y a vraiment rien.
Elle est ouverte, celle-là, on est d'accord.
Ah, elle est ouverte, oui. J'avais une machinerie où on met un euro ou deux, mais la machinerie ne marchait pas, ne fonctionnait pas, n'était pas branchée. Mais ça ne fait rien, on y voit quand même assez. Alors, quand on parle de la Lorraine, on parle parfois... même parfois assez souvent, de la vie des gueules jaunes. Alors les gueules jaunes, qu'est-ce que c'est? Ce qu'il y a de bien dans cette émission, je fais une petite parenthèse, c'est que j'ai toute liberté de vous amener là où je le souhaite. Et ça, c'est formidable.
Mais oui, c'est bon ça, c'est ça qui est bien.
Donc je vous parle maintenant des gueules jaunes. Sur ma vidéo, vous verrez une mine la mine d'Omette, l'ancienne mine qui, voilà, qui est fermée. Mais bon. Et les gueules jaunes, ce sont les mineurs qui travaillaient au fond des mines de Lorraine. L'extraction du minerai se faisait à la main, avec l'aide de chevaux, jusqu'au début du XXe. C'est surtout les Italiens et les Polonais qui se font embaucher en masse. Le coût préférentiel de la main-d'œuvre en est la cause. L'exploitation va durer jusqu'en 1993. Le minerai lorrain a une teneur assez faible, entre 30 et 35%, et en plus il contient du phosphore, ce qui rend l'acier cassant. L'avantage qu'on y trouvait, c'est qu'il est à faible profondeur, entre 30 mètres et 280 mètres, ce qui est, c'est pas grand-chose, hein, par rapport aux mines de charbon, par exemple, pour faire une comparaison. Là, il n'y a pas de grisou, mais ça n'empêche pas que le danger des galeries reste permanent, malgré tout. Hein, y avait pas mal d'accidents. Les mines de fer étaient beaucoup plus nombreuses que les mines de charbon. Et la production de ce minerai a fait naître la plus forte industrie du pays, tout le monde le connaît, la sidérurgie. À la meilleure époque, les usines sidérurgiques vont pousser comme des champignons. Et à l'arrivée des chemins de fer qui vont aller jusqu'au fond des mines, ça va augmenter la productivité. Pourtant, ça ne va pas durer. À partir des années 60, du minerai importé plus avantageux, tout en étant plus riche, 50 à 60% de fer dans le minerai, les usines côtières seront privilégiées. On ne va pas aller chercher du minerai à l'étranger pour le ramener depuis le Havre jusqu'à Lorraine. Vers 1974, c'est une véritable crise. L'arrivée des fours électriques permettait de produire de l'acier à partir de la ferraille recyclée. Donc la demande chute et on arrive à la fermeture des hauts fourneaux. La dernière mine a fermé en 1997. Voilà une page qu'il faut quand même connaître sur la Lorraine. Après avoir fait ce petit tour, chemin faisant, on arrive maintenant à Abu Dhabi, on arrive à Verdun. Voilà. Alors comment qualifier la guerre de 14-18 ? Certainement, le meilleur qualificatif, c'est la Grande Guerre. Faisons un rapide survol en rappelant certains faits. Je vais vous donner des chiffres. Bien sûr, ça va vous tourner la tête, mais ça marque.
Et ça parle.
Et ça parle. Elle a impliqué plus de soldats, provoqué plus de morts et posé plus de destruction que toute autre guerre antérieure. Une moyenne de 6 000 morts par jour. Au total, 10 millions de morts civils et militaires. 19 millions de blessés. 10 millions de mutilés, 7 millions de prisonniers, 9 millions d'orphelins, 5 millions de veuves, 10 millions de réfugiés, 74 millions de mobilisés. Alors, tout ça, ça fait tourner la tête. Mais bon, il faut quand même, de temps en temps, se le rappeler. Le 1er août 1914, le tocsin se fait entendre. C'est la mobilisation générale. Pratiquement tous partiront le 3 août. Le premier gros affrontement, il se déroule début septembre. C'est la bataille de la Marne, la première. Elle mettra un point d'arrêt à la progression des troupes allemandes qui arrivaient vers Paris. Après ça, bien sûr, vous connaissez tous, une guerre d'usure, la guerre des tranchées. Pour faire court, un front s'installe, constitué de plusieurs lignes de défense creusées dans la terre. Les tranchées sont reliées entre elles par des boyaux d'accès. Les conditions de vie dans les tranchées sont épouvantables. Les soldats y vivent entourés par la boue, la vermine, les rats et l'odeur des cadavres en décomposition. De plus, dans les tranchées les plus exposées, le ravitaillement laisse parfois à désirer. Après ça, le No Man's Land, rendu infranchissable par un réseau de barbelés, battu par le feu des mitrailleuses, sépare les deux lignes, parfois de quelques dizaines ou vingtaines de mètres. Le danger est permanent, même en période de calme. La mort survient n'importe quand. Et puis on assiste à de nouvelles armes et de nouvelles techniques. Le bombardement aérien de civils. Pendant toute la guerre, les dirigeables vont terroriser les citadins. Des combats aériens. En 1915, les premiers avions sont armés de mitrailleuses. Pour la première fois dans l'histoire, une guerre sous-marine. Une autre innovation apparaît. Les gaz asphyxiants. L'effet est immédiat, foudroyant et provoque de milliers de morts, blessés, lourds et de souffrances inimaginables. Le lance-flamme. En voilà encore une belle invention, utilisée surtout par les troupes allemandes à Verdun. Certains combattants sont terrorisés à l'idée de brûler vif, préfèrent se rendre. Le porteur de l'engin devient une cible prioritaire. Il est rarement fait prisonnier. Des véhicules blindés et tanks apparaissent. La pollution. Sur l'ensemble des fronts, il a été utilisé près d'un milliard de munitions. Un milliard de munitions d'artillerie. Ce qui représente 4 millions de tonnes d'explosifs. 150 tonnes de produits chimiques arsenic, mercure, hippyrite, encore actifs, sont sources de pollution chimique. Il semble que la pollution libérée par les dizaines de milliards de billes de plomb des obus à balles et le mercure des amorces se sont lentement accumulées. Mais aucune étude officielle ne semble s'être intéressée au devenir des métaux lourds et toxiques de combat dans les sols ou dans les écosystèmes. De même, les séquelles marines, bien que préoccupantes, ont été oubliées. À la fin de la guerre, l'élimination des obus non utilisés a varié selon les États. Déminage, immersion, mise en décharge sauvage, combustion à ciel ouvert ou rarement décontamination dans des installations spécifiques et conçues et équipées. On en a parlé il n'y a pas très longtemps dans une précédente émission, le gouffre de Jardel, rappelez-vous. Les obus arrivaient, ils avaient fabriqué une voie ferrée, les wagons arrivaient chargés au pied du gouffre, au-dessus.
Voilà, je ne sais pas combien de wagons qui déversaient son contenu.
Oui. Voilà, les obus ont été balancés dans le gouffre de Jardel, à peu près à 80 mètres de profondeur. Il y a quelques images, on en voit, avec la rivière qui coule dessus, bien sûr. Revenons à notre émission. Les séquelles de guerre sont très importantes. La reconstruction doit se faire sur des dizaines de milliers d'hectares physiquement dévastés. Les sites les plus bouleversés où les explosifs et où les produits toxiques de combat sont encore trop nombreux pour qu'on puisse rendre les sols à l'agriculture ou à l'urbanisation, sont plantés de forêts ou on y crée des camps militaires. Le rôle des femmes. Les femmes ont fait les premiers pas vers le chemin de l'émancipation à ce moment-là. Elles ont remplacé les hommes dans les usines, elles ont s'occupé des fermes, tout géré. Pour beaucoup, l'après-guerre consistera le retour à la normale et aux valeurs traditionnelles. La preuve, il faudra attendre 1945 pour donner aux femmes le droit de vote. Environ 7 millions de soldats ont été faits prisonniers. Ça aussi, il faut y penser. C'est la première guerre médiatisée. On assiste au développement du reportage et au compte rendu de guerre grâce à l'ampleur des archives photographiques et filmées. Hommage aux soldats. En France, on compte environ 35 000 monuments aux morts présents dans tous les villages et communes pour rendre hommage aux soldats tombés au champ d'honneur. Les soldats des différentes nations reposent dans des cimetières et des nécropoles en principe bien distinctes. On remarque la couleur des croix, blanche et noire, français-allemand. Alors quelques sites sont incontournables. Regardez ma vidéo. Le monument de Navarin. Pour honorer les morts des armées de Champagne, une pyramide à quatre côtés avec une statue sommitale impressionnante. C'est un ossuaire de 10 000 soldats français. La bataille de Verdun a duré 10 mois, a mobilisé 2 millions de soldats français. 26 millions d'obus ont été tirés, soit 6 obus au mètre carré. Elle a coûté la vie à 300 000 hommes.
Énorme.
Énorme. Un mémorial récemment est installé, consacré à cette histoire. C'est un musée, un lieu majeur d'histoire et de mémoire. L'ossuaire de Douaumont, là aussi ça vous laisse, c'est glacial. Il garde en son sein les restes des soldats morts sur le champ de bataille afin de préserver leurs souvenirs. Environ 130 000 morts de toutes nationalités à l'intérieur. La nécropole, face à l'ossuaire, environ 3 000 Français. À Saint-Mihiel, la croix des redoutes, le bois brûlé, ça évoque des épisodes parvenus jusqu'à nous grâce aux écrits et aux paroles mémorables. Ici, les premières lignes se sont fait face à moins de 30 mètres l'une de l'autre. L'adjudant Péricard s'écrie pour faire bouger sa troupe. « Debout les morts !» Ça reste mémorable. Et toujours en ce lieu, cette réflexion de Franz Blumfeld en octobre 1914. « Je n'ai pas la moindre peur des balles et des obus. Je ne redoute que la grande solitude intérieure. J'ai peur de perdre ma foi en l'humanité, au bien qui existe au monde. »
On le retrouve sur ta vidéo, ça.
Oui, je fais un plan là-dessus, oui. Ouais. Vous avez un lieu moins connu, l'abri des quatre cheminées. Deux entrées qui permettent l'accès à un tunnel de 60 mètres de long, qui était poste de commandement, mais qui va vite devenir un lieu de secours pour les blessés. 400 hommes s'y réfugient. La ligne allemande se rapproche. Les obus de 305 et de 380 tombent avec rage. Dans la nuit, plus de 100 000 obus tombent dessus, sur l'abri des quatre cheminées. Au matin, il s'ensuit une attaque aux lance-flammes et au gaz. Un véritable enfer. Un autre enfer. Le site des Éparges, à 22 km de Verdun. L'enjeu, soi-disant, est stratégique, un point stratégique en haut de la crête qu'il faut prendre pour avoir le point de vue. De novembre 14 à février 1915, une série d'attaques meurtrières jusqu'à l'assaut final, jusqu'à l'assaut, non, par finale, le 17 février 1915, pour rien. Rien n'a bougé. Après 3 mois de combats extrêmes dans la boue, mais le bilan humain est terrible. Environ 12 000 morts pour les deux camps, sans qu'aucun ne prenne le dessus. Cette Crète a été un lieu de combat des plus macabres. Tout ça en 3 mois. Maurice Genevoix, auteur bien connu, sous-lieutenant à l'époque, écrit « Quel sens ? Tout cela n'a pas de sens. Cette guerre est ignoble. J'ai été pendant 4 jours souillé de sang, de terre et de cervelle. Je suis écœuré, sous d'horreur. » Il s'ensuit après cela une guerre des mines jusqu'en 1917, c'est-à-dire qu'on creuse des galeries, on place le plus possible d'explosifs et on fait péter. Tout ça sans rien modifier sur le front. 5000 hommes sont tués, blessés ou disparus dans les premiers jours de gigantesques entonnoirs. On sent les vestiges de cette guerre souterraine, une butte sanglante. Au pied de cette crête, la nécropole du trottoir où reposent 21 000 soldats français. Louis Pergaud, auteur de La guerre des boutons, tout le monde le connaît, y trouva la mort. Comme aussi Alain Fournier, auteur du Grand Molme, prix Goncourt, 1914. Comme aussi 50 000 morts pour les deux camps et 10 000 enfouis à jamais. Jean Giono écrit « Nous avons fait les Éparges, Verdun et la boucherie en plein soleil des attaques de Nivelles au chemin des Dames. J'ai 22 ans, j'ai peur. » Et puis aussi on a des lettres d'inconnus, celle d'Eugène Emmanuel Lemercier qui écrit à sa mère « Tu peux pas savoir, ma mère aimée, ce que l'homme peut faire contre l'homme. » Et une dernière pensée que l'on doit à Maurice Genevoix. « Ce que nous avons déjà fait, en vérité, c'est plus qu'on ne pouvait demander à des hommes. Et nous l'avons fait. » Le chemin des Dames, pendant 6 semaines, du début février à mi-mai 1917, des assauts successifs pour tenter de conquérir le site. Pendant le premier assaut, 40 000 Français tombent sous le feu infranchissable des mitrailleuses allemandes. C'est pas fini. La butte vaut quoi ? Avant-guerre, il y avait un village en haut d'une colline. Ça deviendra une gigantesque termitière, des dizaines de kilomètres, 17 kilomètres de galeries pour les Allemands, 5 pour les Français. Et là, au cours de cette bataille, environ 14 000 soldats perdront la vie. On a recensé 519 explosions, 190 pour les Allemands, 320 pour les Français. Les mines sont placées de plus en plus profond et les charges de plus en plus importantes. Le plus gros entonnoir, il est dû à une mine allemande de 60 tonnes qui a tué 107 Français d'un coup. Autre lieu, la main de Massige. J'ai fait beaucoup de drones sur la main de Massige avec l'autorisation du président de l'association. On voit très bien. Un haut lieu de combat de Champagne. On estime à 25 000 le nombre de Français tués, blessés ou disparus. Les tranchées sont les mieux conservées parce qu'elles sont reconstituées par l'association de la main de Massige. Alors d'autres lieux de misère mériteraient d'être racontés, notamment des lieux un peu plus loin. La Somme, par exemple. Et ça sera pour une autre fois. Ainsi donc, ça sert. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé avec les chiffres. De temps en temps, comme ça, il faut quand même y repenser à tout ça. Hein.
C'est important. Ouais.
Ouais,
c'est important.
Voilà. Bon, l'émission s'achève. On va parler deux mots.
De l'aquarelle.
De la... Oui, j'aime bien son aquarelle, là, qui est un peu dans le flou, qu'elle a appelé Les écrits de guerre. Aucun rapport avec Saint-Exupéry, puisque c'est le titre de ses livres, mais bon. Simplement dessiner le moment du courrier qui est si important pour les poilus dans la vie des soldats, pendant lequel ils oublient un peu leurs conditions inhumaines. Ouais. Et puis, des images de VTT. Voilà. T'as pas fait de VTT les dernières fois ?
Là, il y en a dans un terrain boisé, beaucoup boisé. Le VTT
oui.
est très sympa.
Oui, c'était ludique. Hein, ah. Parce qu'on traversait des zones où il y avait eu des tranchées. Donc, on les prenait parfois de face, parfois au fond. Et donc, c'était... Un terrain défoncé avec les stigmates de champ de bataille, mais ludique. Donc voilà. Et le mois prochain, alors là, je vous emmène pas bien loin, on reste dans la région.
Ah, c'est-à-dire ?
Le titre de mon émission s'appelle « Tours et détours Qatar ». C'est chez
d'accord.
nous.
D'accord. Oui, c'est chez nous, ça. C'est vers l'eau de l'Ariège, on est d'accord.
Exactement, c'est tout à fait ça. Voilà.
Ah, très bien. Bon, mais merci beaucoup, Christian.
En attendant...
Bougez.
Mais bougez en France, merci Francis.
Merci. Au mois prochain.
Au mois prochain. Thank you.